des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une émission consacrée aux dévoreurs de livres, à tous ceux qui ne peuvent s'en passer parce qu'ils y découvrent dans les livres des ressources insoupçonnées, parce qu'ils s'en nourrissent, mais pas seulement spirituellement, pas seulement intellectuellement, pas seulement émotionnellement, mais aussi physiquement pour y trouver des calories. Une tradition qui remonte d'ailleurs à l'humanisme où l'érudition jouait le même rôle que la nourriture qui était décrite, l'érudition, métaphoriquement, comme un certain nombre de plats à dévorer. Et gros mangeurs, ils sont nos invités d'aujourd'hui, l'inénarrable Pierre Bayard, l'auteur de Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, l'auteur qui se plonge dans les textes célèbres pour mieux les dévorer de l'intérieur, eux et leur auteur mangeaient tout cru. Après avoir réglé son compte à Voltaire ou à Proust, il nous montre dans La vérité sur Dix petits nègres aux éditions de Minuit qu'Agatha Christie nous a trompés. Avec Pierre Bayard, un nouveau venu sur la scène littéraire, Stéphane Malandrin, qui porte bien son nom, car avec Le mangeur de livres au seuil, son premier roman, il nous montre comment l'on finit lorsqu'on vole des livres pour les manger, surtout quand les pages en sont empoisonnées. Bien fait, on verra. Bonjour Pierre Bayard.
Bonjour.
Alors à chaque année, son nouveau forfait, vous êtes professeur à Paris 8, vous êtes psychanalyste, vous êtes aussi l'auteur de livres intellectuellement délicieux et délicieusement paradoxaux sur la littérature. C'est même le titre, hein, paradoxe de la collection qui les abrite aux éditions de Minuit. Des livres qui nous ont appris, par exemple, à comment parler des livres qu'on n'a pas lus, qui nous ont montré comment Voltaire a plagié Conan Doyle, l'inventeur de Sherlock Holmes, 200 ans avant lui, ce que vous appelez un plagiat par anticipation. Des livres encore qui prétendaient améliorer Proust en supprimant des passages de La Recherche qui seraient trop longs. Ou un autre encore où vous montriez que derrière les monstres russes Tolstoï et Dostoïevski se cachait un monstre plus grand encore, Léon Fiodor Tolstoïevski. À chaque année, son nouveau forfait, disais-je. Vous nous aviez montré en 1998 qu'Agatha Christie s'était trompée de coupable dans son roman Le meurtre de Roger Ackroyd, 20 ans plus tard, puisque nous sommes en 2019. C'est aux Dix petits nègres que vous réglez leur compte dans La vérité sur Dix petits nègres. Pourquoi dévorer une deuxième fois un titre mythique d'Agatha Christie? Qu'est-ce qu'elle vous a fait?
Alors, ce qui m'intéressait dans ce nouveau projet, qui est le quatrième d'une trilogie en quatre volumes, je pense que les trilogies ne doivent pas seulement en comporter trois. Ouais. Donc il y a Agatha Christie, ensuite il y a eu Hamlet, Sherlock Holmes, c'est maintenant à nouveau Agatha Christie. Ce qui m'intéressait, c'était l'idée de donner la parole à un personnage de fiction. Cette fois, c'est le ou la criminelle, hein, je vais utiliser une forme d'écriture inclusive en parlant du ou de la coupable. C'est l'assassin, donc, qui prend la parole, qui sort du livre et qui explique comment il, elle a fait. Il y a une thèse à laquelle je crois beaucoup et que je défends depuis des années, c'est la thèse de l'autonomie du personnage littéraire. Je suis convaincu que les personnages littéraires ont une forme d'autonomie, non seulement d'action, c'est-à-dire qu'ils ou elles accomplissent des actions à l'insu même de leur créateur, mais également une autonomie de conscience. C'est une minorité qu'il faut protéger et à qui il faut donner la parole. Et c'est le cas dans ce livre, puisque ça n'est plus moi qui mène l'enquête, c'est la personne qui a tué 10 victimes sur l'île du Nègre, qui raconte comment il ou elle a fait, et qui exprime sa surprise que 80 années après, et 100 millions de lecteurs, personne n'ait vu que la solution d'Agatha Christie ne tenait pas la route.
Et c'est votre deuxième Agatha Christie.
Donc c'est le deuxième Agatha Christie, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour la manière dont elle construit des intrigues, et quitte à faire ce que j'appelle la critique policière, donc à revenir sur des cold cases, eh bien, autant le faire avec des livres qui apparemment sont complètement bétonnés. Et même dans des solutions qui paraissent bétonnées, eh bien, il y a des failles, et dans le cas de Dix petits nègres, il y a des failles absolument énormes.
Des cold cases, hein, vous dites, comme dans les séries américaines.
C'est-à-dire des vieux dossiers, hein, que l'on croit réglés, et qui en fait ne le sont pas, puisque au bout de 80 années, on peut trouver encore des erreurs, des failles, des invraisemblances. La critique policière part d'invraisemblances massives dans la solution, et elle ne se contente pas de relever ses invraisemblances. Elle ficelle le dossier, elle clôt l'affaire en recherchant qui a vraiment tué, ce que je, c'est-à-dire dans ce cas précis, l'assassin révèle dans les dernières pages et même à la dernière ligne, pour être précis.
Exactement. Bonjour Stéphane Malandrin.
Bonjour.
C'est votre premier roman, je le disais, que ce mangeur de livres qui paraît aux éditions du Seuil. C'est un merveilleux premier roman qui nous transporte à Lisbonne au 15e siècle, juste avant la diffusion de l'imprimerie dans la péninsule ibérique. Je rappelle que le 23 février 1455 est la date traditionnelle qu'on retient comme le jour où Gutenberg a achevé sa Bible latine à 42 lignes. C'était à Mayence, sa ville natale. Nous suivons, grâce à vous, Stéphane Malandrin, deux petits malandrins de voleurs, donc.
C'est ça.
Vous me permettez ce jeu, sur le nom de l'auteur. Il sera beaucoup question d'auteur, d'ailleurs, et d'autorité de l'auteur. Et peut-être de vaincre l'auteur avec vous, Pierre Bayard, et vous, Stéphane Malandrin. Donc, je disais, deux petits malandrins de voleurs, Adar et Faustino, qui sont frères, mais pas de la même mère, pas du même père, d'ailleurs, non plus, mais ils sont frères. Voilà. Ils pillent les églises, l'un pour ses objets précieux, l'autre pour ses livres, les précieux codex dont il se nourrit, qu'il mange au propre et pas au figuré. Pourquoi ? Parce qu'un jour où ils sont retenus en otage par un mystérieux prêtre, il a bien fallu se nourrir et ne pouvant plus attendre, Adar a dégusté le vélin de ce livre que tenait le prêtre contre lui, un mystérieux livre, un codex empoisonné qui l'entraînera dans un flot d'aventures et de métamorphoses, preuve qu'on ne dévore jamais les livres sans danger. Où avez-vous pris cette idée, Stéphane Malandrin? J'allais dire de voler cette idée, mais non, de la prendre. Parce que, au départ, il y a cette expression, dévorer un livre. Et vous la prenez, cette expression, au pied de la lettre.
Oui. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être avec Pierre Bayard, qui m'a l'air d'un fameux polisson. Et qu'on est tous les deux, je pense, des polissons, voilà, de la littérature. Faire des bêtises, enfreindre un peu les lois. On est un peu là pour ça. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Alors, où est-ce que j'ai pris cette idée? Alors, je ne sais plus, parce que je me suis égaré en écrivant ce livre. Ça durait, j'ai mis très longtemps, j'ai mis 10 ans à écrire ce livre. Je voulais écrire un autre livre. J'étais parti dans une autre époque. J'étais parti au 19e siècle, en Hongrie, à l'époque de Beethoven. Et ce n'est pas dans le livre dont on parle.
Ah non, Beethoven n'y est pas.
Il n'y est pas.
Il aurait pu chez Pierre Bayard.
Oui, mais on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on s'est croisés par hasard au café. Donc, j'avais envoyé au Seuil un autre livre avec, et dedans ce livre qui était très très grand, il y avait une espèce de flashback un peu bizarre.
C'est un extrait de livre,
oui,
en fait.
Oui, voilà. Et donc, mon personnage, mon narrateur, qui était un autre narrateur, avait une espèce de réminiscence qui se passait au 15e siècle. Et bon, après, j'ai rencontré Louis Gardel au Seuil, qui m'a très généreusement reçu et aimablement expliquer que mon ouvrage, qui était bien, il était un petit peu trop débordant.
Donc voilà. On allait prendre quelques pages.
Non, donc il m'a dit, écoute, c'est super, mais en l'état actuel, il faut que tu revoies un peu les choses, c'est peut-être un petit peu trop ambitieux, etc. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, bon.
Mais dans cet extrait...
C'était pas vraiment un extrait, c'était une sorte de flashback dans lequel il y avait...
un passage
du livre. Un passage, voilà, qui revenait en 2-3 morceaux, comme ça, qui se passait au 15e siècle.
Il y avait ce mangeur de livres.
Voilà, qui était comme une explication généalogique de mon narrateur dans un passé lointain. Et donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur ce type-là, ces deux enfants. Donc, j'ai enlevé, ça a été un peu dur, mais je me suis coupé la moitié du bras. Et je me suis dit, bon, je vais faire un truc plus court, voilà.
Il y a des cas, vous qui êtes un dévoreur de livres, littérature, Pierre Bayard, qui l'enseignait aussi. Il y a d'autres cas de livres, en fait, qui étaient au départ un passage, ou je dis quelques pages, ça fait un certain nombre quand même, 180 et quelques, mais il y a des cas en littérature de livres qui étaient prévus pour être plus vastes et qui ont été amputés, et cette amputation en a fait leur unité, finalement.
Alors, ce à quoi je pensais surtout, c'est à d'innombrables cas dans lesquels vous avez un développement à partir d'une bribe de livres. Pensez par exemple à une phrase dans Salluste à propos de Bérénice, Tite et Bérénice. Et à partir de cette phrase, vous allez avoir des tragédies entières qui vont être développées. Tout livre se construit par dévoration d'autres livres, de livres précédents. Et donc, c'est très fréquent que on ait ces développements qui soient faits à partir d'un livre précédent.
On ouvre une porte et on croit d'écrire une pièce, mais en fait, il y a une porte, on l'ouvre et par hasard, on tombe dans un autre appartement. Et on est reparti dans d'autres visites et on se perd. Je sais pas, vous êtes perdu, vous, Pierre, en écrivant vos livres, ou est-ce que les chemins où on se perd vous intéressent?
Ah oui, par définition, puisque j'essaie de sortir l'essai littéraire classique de ses codes, de ses normes. Donc ouais. C'est surtout les passages, les bifurcations, le braconnage qui m'intéresse. C'est là-dessus que je travaille.
Puis vous sortez les passages de la maison, donc de toute façon, c'est pas les faire rentrer dans une autre pièce, c'est qu'ils sortent, quoi. Vous les...
Ils sortent ou ils rentrent, ouais. Comme je le disais, je crois dans l'autonomie du personnage, mais je crois aussi que les personnages circulent entre la littérature et notre monde. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis revenu sur Agatha Christie. J'avais fait un livre qui s'appelait « Aurais-je sauvé Geneviève d'Ixmer ?» oui. Dans lequel j'entrais dans un roman d'Alexandre Dumas. Et je prenais la place du personnage principal pour
me poser... Il était question de sauver une jeune femme. Hein,
voilà, pour me poser des questions qui sont des questions d'éthique très, très sérieuses. Hein. Est-ce que si j'avais vécu sous la Révolution et si j'avais été un farouche républicain, ce que je suis d'ailleurs, est-ce que j'aurais accepté d'avoir une relation amoureuse avec une royaliste dont toute la vie est consacrée à sauver Marie-Antoinette. Ça pose des questions d'éthique qui sont très intéressantes. Donc j'ai entré dans le livre, j'avais envie de faire le contraire et d'essayer de faire sortir un personnage du livre, persuadé qu'il y a des circulations et que les personnages sortent des livres. Pensez à cette autre pathologie de la lecture, je dis autre pathologie parce que là on est face à un cas de boulimie, qui sont les personnages qui influent sur des êtres vivants au point que ceux-ci sont téléguidés par eux, Don Quichotte, Madame Bovary, les personnages sortent des œuvres où Woody Allen l'a montré dans La grosse pourpre du Caire. Et il faut faire attention à ce qui se passe. Il devrait y avoir des mesures prises contre ces
sorties. D'ailleurs, un de vos personnages est en train d'écrire votre biographie en ce moment, mais ça vous le savez pas, mais il va bientôt sortir.
Merci à tous les deux d'avoir accepté de nous rejoindre dans ce temps des écrivains où il sera question de ces plongées magnifiques que l'on peut faire dans les livres. Je voulais vous demander à tous les deux d'abord si les livres que vous avez écrits, vous les avez écrits, enfin ces deux livres-là, hein, Le mangeur de livres pour Stéphane Malandrin et La vérité sur Dix petits nègres pour vous, Pierre Bayard. Est-ce que vous les avez écrits en guise d'antidote au règne actuel des images et à la supposée perte de pouvoir des mots, Stéphane Malandrin?
Oula, voilà une grande question. Je reviendrai demain pour vous répondre. Je pense que je vais réfléchir toute la journée.
On va laisser Pierre Bayard alors.
Oui, alors moi j'adore les images, je suis un fan de cinéma, de séries, mais je me bats pour que la littérature garde une place majeure. Et c'est un véritable enjeu, je suis professeur d'université, de voir arriver des générations de non-lecteurs qui méconnaissent le fait que oui, les images, les formes nouvelles de narration dans les séries sont extraordinaires, mais que la littérature apporte autre chose que n'apporte pas l'image, qui est la vie intérieure du personnage.
Ça c'est quelque chose... pas dans l'image, pensez.
Au cinéma, je crois que c'est extrêmement difficile d'exprimer notre vie intérieure comme la littérature peut le faire.
Ouais, le flux de conscience.
Lorsque Renoir adapte la Bête humaine de Zola, bien Jean Gabin n'arrive pas à exprimer ce que Zola décrit de la vie intérieure de l'entier. Il fait des grimaces. Ouais. Parce qu'il y a cette séparation radicale que l'image ne pourra jamais, et je crois que Stéphane, qui est cinéaste, le confirmera, ne pourra jamais exprimer la profondeur, la complexité de notre vie intérieure.
Alors ça va, vous avez eu le temps un peu de réfléchir
pour voilà. Mes idées, mais en tout cas, je peux vous partager mon expérience personnelle. C'est vrai que j'écris des scénarios, que j'ai fait des films avec mon frère. Pour moi, quand j'écris, je m'évade vraiment en écrivant un livre, un roman. Quand j'invente un scénario, l'évasion n'est pas aussi lointaine, je veux dire.
C'est beaucoup plus technique aussi, peut-être.
Oui, c'est technique. On reste dans la fabrication d'images, oui. Mais là, la littérature, c'est fantastique, je veux dire, effectivement, de plonger... rentrer dans des mondes qui sont tellement profonds, on a l'impression de quand on revient à la réalité, c'est de shooter un bon coup, c'est plus puissant.
Et l'autre différence fondamentale, et je crois que le livre de Stéphane l'exprime très bien, c'est la langue. C'est vrai que son thème est génial, l'histoire de ce type qui se met à manger au sens propre livre, mais il y a surtout dans son livre une langue qui est extraordinaire, une langue poétique, des énumérations interminables qui sont liées à la fois à Rabelais et manifestement à Pérec aussi, qui a influencé Rabelais. On est dans quelque chose qui est complètement
Rabelais
différent.
A même plagié Pérec, non?
Absolument, une sorte de poétique de l'énumération où la langue se met à fonctionner toute seule, ayant quitté la réalité, et ça, seule la littérature peut le faire.
La littérature, la musique, alors, parce que justement, moi j'étais parti de Beethoven, je suis arrivé à Rabelais, je me suis trompé d'étage, je me suis égaré, mais j'ai considéré après, enfin je suis arrivé à Rabelais, à ce monde rabelaisien, mais chez Beethoven, il y a quelque chose aussi du débordement permanent de la vie, de l'énumération, du franchissement des lignes, des codes. C'était aussi un galopin, je pense, Beethoven, et quelque chose de réjouissant. Je pense aussi qu'il y a quelque chose chez vous, Pierre, qui a l'air vous avez l'air très sérieux et très sage, mais en fait, je pense que vous êtes un grand comique.
Oui, vous êtes traité de polisson tout à l'heure. Hein? Vous êtes d'accord, Pierre Bayard?
C'est plutôt flatteur.
Oui, j'irais le comique de Borges, un peu, justement, dans fiction. Mm-hmm. Cette façon de parler de Cervantes, là, il y a une nouvelle. Hein,
Borges vous réunit d'ailleurs aussi dans l'image de la bibliothèque, hein, qui de toute façon est toujours présente chez vous, Pierre Bayard.
Et il figure dans la bibliographie de Stéphane. Oui.
Exactement. Pour venir à un thème qui m'intéresse beaucoup dans vos livres, on le sait ou on le sent quand on le sait pas, c'est que vous êtes de grands lecteurs. Quel lien vous faites entre littérature et nourriture? Puisque vous parliez, Pierre Bayard, en évoquant le livre de Stéphane Malandrin, du côté rabelaisien. Et c'est vrai qu'il y avait chez Rabelais à la fois cette boulimie de lecture, d'érudition, et cette boulimie de mots, en tout cas, disant la nourriture. Quel lien vous faites, vous, entre littérature et nourriture? Puisqu'il s'agit aussi d'aligner des mots comme des plats.
La littérature, je dirais, permet de donner du sens à nos vies, en fait. De nous raconter ce qui se passe à l'intérieur d'une histoire. Cette histoire, elle nous rassure, elle nous éclaire. C'est une nourriture dans le sens où on a besoin d'avoir du sens pour exister. Si on fait des choses qui sont insensées ou qui sont vides, finalement, on fait des dépressions, on est en burn-out.
Non, je dis ça parce que à la fin de votre livre, Stéphane Malandrin, il y a quelques pages qui s'intitulent « Pour faire un mangeur de livres, il vous faut » et vous présentez... Oui, une bibliographie, en fait, qui vous a aidé donc à écrire ce roman. Vous la présentez comme un menu, au fond. Même le trou normand est là, hein. Par exemple, faites le trou normand avec Flaubert, qui, à l'âge de 18 ans, écrivit quelques pages enthousiastes et rafraîchissantes sur Rabelais, etc., etc. Et vous le citez, d'ailleurs. On va le citer, hein, Flaubert, qui parle de Rabelais. C'est toujours très, très beau. Ce siècle prude, gouverné par de Maintenon et si bien représenté dans l'anguleux et plat jardin de Versailles, avait déjà honte de cette littérature débraillée, brillante, nue. Ce géant-là lui faisait peur. Il sentait bien qu'il se trouvait entre deux choses terribles pour lui, le XVIe siècle, qui avait donné Luther et Rabelais, et la Révolution, qui devait donner Mirabeau et Robespierre, les démolisseurs de croyances avant, les démolisseurs de têtes après, deux abîmes au milieu desquels il se tenait guindé dans l'adoration de lui-même. Flaubert n'aimait pas le XVIIe siècle, qui n'aimait pas Rabelais.
Ce menu, c'est parce que la littérature, ça se goûte. Oui, on adore lire des phrases, on adore lire des mots. Il y a des mots. Moi, le plaisir d'écrire ce livre, c'est aussi de retrouver des mots qui étaient perdus, des vieux. Je disais, mais c'est fantastique. Comment ils décrivaient les plats à cette époque? J'avais juste envie de faire la liste. Si j'avais pu faire un livre que de mots qui se suivent un peu à la Pérec, si c'était possible, je le ferais. Enfin, je veux dire, des fois, il y a des mots perdus. On se dit, mais c'est quand même dingue qu'on n'utilise plus ce vocabulaire.
Et ça, c'est très rabelaisien. Les mots perdus, les mots gelés, les mots qu'on retrouve, les mots longs,
les mots truculents, les mots qu'on a envie de... Moi, j'ai envie de lire des livres, juste me plonger dans des vieux bouquins en me disant, juste pour revoir ces mots. C'est pour ça que Rabelais, la lecture, est tellement réjouissante. C'est... Sa phrase est réjouissante.
Chez vous, Pierre Bayard, on parlait des liens entre nourriture et écriture. C'est presque du... On pourrait même parler de vampirisme, en fait. C'est pas seulement s'en nourrir, on enlevait toute la substance, s'en nourrir pour fabriquer autre chose, mais presque les vider de l'intérieur.
Oui, je me reconnais tout à fait dans cette image de la boulimie de la lecture, parce que je suis un boulimique de la lecture, contrairement au narrateur de Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, qui se vantait de ne jamais ouvrir un livre. Moi, je lis sans cesse, et je ressens une véritable angoisse quand j'arrête de lire à certains moments, donc je me reconnais tout à fait dans cette image, et aussi dans cette intuition remarquable que vous avez eue, qui sont quasiment psychanalytiques, c'est que la lecture transforme physiquement la personne. Et c'est ce qui se passe. Et là encore, vous prenez la métaphore au pied de la lettre, hein, puisque le jeune héros, Hadar, se transforme physiquement après avoir lu.
En ruminant.
Voilà.
En ruminant.
Comme si ce qui est a priori complètement abstrait, la circulation de mots dans notre esprit, en fait, avait une consistance nutritive et pouvait nous transformer. Et ça, je trouve que c'est une intuition géniale, qui correspond vraiment à l'expérience que font les gens qui dépendent pour exister et être bien des livres.
Mais quand on est étudiant, moi j'ai adoré mes années d'études, j'ai étudié la philo, d'aller dans les bibliothèques, de passer des heures à lire des vieux bouquins, enfin voilà, d'étudier des cartes quand on a 18 ans, c'est bizarre. Et en même temps, ça vous transforme physiquement. Oui, vous êtes différent après. Donc c'était peut-être une façon de parler de ça, c'est sûr. Mais même des souvenirs d'enfance, de voir quand on est enfant et qu'on voit ses parents qui font des activités très ésotériques, de lire un livre quand on
sait pas lire. Qui grossissent à force de lire des livres.
Ben oui, qui prennent aussi de l'assurance, ou qui parlent, qui mangent comme ils... Voilà, c'est...
Enfin, lui, il devient une sorte de vache énorme. Ça donne pas envie de se nourrir d'autant de livres.
Vous, Christophe, on vous interroge jamais, mais vous lisez combien de livres par semaine, par exemple?
Je lis énormément de livres, et c'est pareil. Je pense que si je ne lis plus, je meurs. Je maigris, moi, si je ne lis plus.
Physiquement, comment ça se passe?
Ben, vous de juger.
Non, mais
voilà,
ça va,
on se maintient.
Si je peux compléter. Vous disiez vampirisme, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de vampirique dans ce que je fais, mais j'essaie de donner aussi, et pas seulement de
même
prendre.
Même physiquement, vous avez un petit regard vampirique, Pierre Bayard. Ouais.
J'essaie de donner aussi, dans la mesure où j'essaie de montrer que les textes sur lesquels je travaille sont infiniment riches. Je ne me contente pas de m'amuser avec.
Mais vous logez aussi à l'intérieur, en fait. Un peu comme cette vrillette opiniâtre dont parle Stéphane Malandrin.
C'est un insecte qui vit dans les livres.
Les creuse.
Mais c'est Pierre Bayard.
La vrillette opiniâtre.
Je pense que la nuit, vous devez être réveillé par des rêves de personnages qui viennent vous susurrer des messages mystérieux sur des livres qui ont été écrits par des personnages.
En tout cas, je crois qu'il faut croire aux fantômes pour travailler sur la littérature. C'est-à-dire croire qu'il y a des éléments, des êtres qui existent, qui ont une véritable force, ce dont témoignent tous les écrivains qui disent à certains moments que leurs personnages, très sérieusement, leur échappent.
Bien sûr. On continue avec vous, on va se nourrir avec ce festin que vous nous offrez, Pierre Bayard, avec La vérité sur Diptynègre et vous, Stéphane Malandrin, avec votre mangeur de livres. On commence par Pierre Bayard, on écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi la musique de la série Cold Case, on en parlait, Nara, interprétée par le groupe IS Posthumus.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Nara, interprété par le groupe IS Posthumus, c'est la musique de la série Cold Case et c'est le choix musical de Pierre Bayard qui publie aux éditions de Minuit La vérité sur Diptynègre. Vous nous en avez parlé tout à l'heure, Pierre Bayard, chacun de vos livres, vous le pensez comme un cold case finalement, un dossier froid à ressortir des placards.
Alors il y a plusieurs séries, là c'est une trilogie policière en 4 volumes et avec
une trilogie en 4 volumes, voilà. Vous l'avez expliqué tout à l'heure.
Avec donc cette spécificité que je reprends de vieux dossiers policiers pour montrer que l'affaire a été mal ficelée, que l'enquête n'est pas la bonne, et pour conduire le lecteur vers la véritable solution. Animé par, c'est pour ça aussi que j'avais choisi Cold Case, animé comme dans la série par les revendications de personnages. Il y a des fantômes dans Cold Case, dans la série, qui viennent vers moi et qui me demandent de reprendre le dossier et de le boucler.
Puisqu'on parle de la série, juste un petit mot, on va pas s'étendre là-dessus, mais vous parliez tout à l'heure des formes de narration de la série qui plaisent beaucoup à tout le monde, d'ailleurs aux lecteurs aussi, les lecteurs adorent, vous en êtes vous-même un exemple. Vous trouvez qu'il y a véritablement, vous qui étudiez la narratologie, une révolution narrative dans ce que proposent un certain nombre de séries aujourd'hui?
Ah oui, ça j'en sais absolument. tellement convaincu. Regarder des séries qui étaient pourtant très bonnes, hein, des années 60, 70, y compris des séries américaines, et c'est difficilement regardable, parce qu'ils ont inventé un nouveau rythme narratif. Je trouve une nouvelle manière de raconter des histoires. Dans mon département de littérature à l'Université Paris 8, on enseigne les séries. Non pas pour détourner les étudiants de la littérature, mais parce que les scénaristes ont des idées géniales et ont réinventé la façon de raconter une histoire. Si je peux ajouter quelque chose aussi, hein, et là c'est un point commun avec le polar, qui est un genre en constant renouvellement, dans les séries, en particulier dans les séries américaines, il y a une prise en compte de l'actualité historique et de l'acceptation de ce qui se passe dans le monde contemporain, hein, qu'on ne trouve pas ailleurs.
Que la littérature aurait déserté, peut-être?
Non, mais que les cinéastes et les auteurs de séries en France ne prennent pas en compte. Regardez les séries américaines, vous avez en temps direct des critiques de l'armée américaine ou des exactions commises par certaines personnalités politiques avec énormément... Alors évidemment, ça ne concerne qu'une petite partie des États-Unis, mais je crois que la série, c'est un peu l'équivalent du polar, c'est un genre en constant renouvellement et qui nous dit quelque chose du monde contemporain, de la politique, de ce qui se passe autour de nous.
Je le disais à l'orée de cette émission, vous êtes un cas, Pierre Bayard, à chaque année son nouveau forfait. Vous êtes professeur à Paris 8, vous êtes psychanalyste, vous êtes avant tout Pierre Bayard, c'est-à-dire l'homme qui entre dans les textes pour les dévorer de l'intérieur et nous les rendre peut-être encore plus vivants, ce qui serait une forme de paradoxe aussi, une sorte de vampire qui donne un surcroît de vie à ses victimes. Alors je ne parle pas là de comment parler des livres que l'on a pas lu, je ne parle pas de votre livre sur le plagiat par anticipation, mais d'une certaine, alors c'est cette trilogie qui sera donc en 4 volumes, hein, qui a tué Roger Ackroyd, c'était en 98, et vous nous y montriez que Agatha Christie s'était trompée de coupable dans son propre roman. Quelques années après, dans Le Chien des Baskerville, vous nous montriez que Conan Doyle s'était lui aussi trompé. Et 20 ans plus tard, donc c'est au Diptynègre que vous réglez leur compte dans La vérité sur Diptynègre, aux éditions de Minuit. Donc vous nous en avez parlé tout à l'heure, c'est votre deuxième Agatha Christie. Il y a juste, quand même, première question, cet avertissement que vous donnez en quatrième de couverture. Aucun lecteur sensé ne peut croire en la solution invraisemblable proposée à la fin du célèbre roman policier Diptynègre. En donnant la parole au véritable assassin, ce livre explique ce qui s'est réellement passé et pourquoi Agatha Christie s'est trompée. Aucun lecteur sensé ne peut y croire. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on adore les Diptynègres alors que c'est invraisemblable? Puisque vous posez le fait que c'est invraisemblable. Moi, ça ne m'avait pas surpris.
Alors, si vous permettez, c'est une trilogie en 4 volumes, j'y tiens beaucoup, donc oui. Il faut rajouter Hamlet de
Shakespeare.
Ah oui,
Hamlet de Shakespeare.
Enquête
exactement.
Sur Hamlet, où oui. Je montre que la solution traditionnelle, suivant laquelle ce serait Claudius qui aurait tué le père d'Hamlet, ne tient pas la route. Ce que les Shakespeariens avaient déjà remarqué, il y a des invraisemblances massives.
Donc les Shakespeariens sont plus malins que les Agatha Christiens, alors, qui n'avaient jamais vu ça avant votre livre.
Oui, je pense que ce sont des universitaires, il y en a énormément, et donc ils ont travaillé, et en 1917, il y a un auteur qui s'appelle Greg, qui a trouvé qu'il y avait dans un passage d'Hamlet une invraisemblance majeure. L'idée de la critique policière, hein, c'est de partir d'une invraisemblance. Et là, par exemple, je la résume rapidement, il y en a d'autres. Diptynègre, 10 victimes sur une île, assassinées les unes après les autres. Pourquoi ne tentent-elles pas de s'échapper de l'île? Eh bien parce qu'une tempête violente s'est levée.
C'est une explication.
Oui, certes, mais ce que les 100 millions de lecteurs qui ont lu le livre, c'est à peu près le chiffre qu'on a trouvé, n'ont pas remarqué, semble-t-il, c'est que l'assassin ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait une tempête. C'est la tempête qui transforme l'île en chambre close. Or, l'île est à proximité du rivage. Et moi, personnellement, si je me trouvais sur une île en proie à un assassin, un tueur en série, je tenterais de regagner le rivage.
Oui, d'autant qu'il y a 1500 mètres.
Hein. Voilà, 1500 mètres, c'est voilà. Pour... Oui. Je suis un lecteur moyen,
Stéphane,
mais je tenterais ma chance.
Stéphane Malandrin dit que ça se nage. Voilà.
Donc, invraisemblance
Mais qu'on
majeure.
Ne voit pas, alors. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un effet de... Il y a de l'illusionnisme qui fait que notre regard est dirigé vers ailleurs, vers un autre
voilà.
Point.
Voilà, alors, il y a toute une partie du livre dans laquelle je tente de réfléchir sur les phénomènes d'aveuglement. La particularité de mes livres, c'est qu'il y a une dimension littéraire, fictionnelle, ludique, ce sont des polars. Mais il y a aussi une dimension d'essai en sciences humaines où j'essaie de poser des questions plus théoriques. Mmh. Et là, je réfléchis beaucoup sur la question de l'aveuglement. Comment Agatha Christie nous trompe-t-elle avec sa solution? Mais comment aussi se trompe-t-elle elle-même en ne voyant pas quelque chose qui crève les yeux? Ou plus exactement, deux éléments qui crèvent les yeux. Je viens de vous communiquer le premier, je ne vous donnerai pas le deuxième. La tempête qui rend invraisemblable la solution qui est proposée à la fin. Et puis un élément qui désigne l'assassin de manière indubitable, qui est même répété trois fois dans le livre, et qu'elle ne voit pas elle-même. Parce que la vue est quelque chose d'extrêmement complexe que j'essaie d'analyser à partir de toute une série de textes théoriques, en particulier des théoristes cognitivistes, sur tout ce qui concerne ce qu'utilisent également les prestidigitateurs, c'est-à-dire le détournement d'attention. En permanence, nous voyons quelque chose, et du coup, nous ne pouvons pas voir autre chose qui est en même temps dans le même champ visuel.
Sauf que le prestidigitateur est conscient qu'il aveugle son spectateur, alors que dans ce que vous expliquez dans La vérité sur des petits nègres, c'est que l'auteur lui-même s'aveugle, en fait.
Parce qu'on ne peut jamais tout voir. Hein.
Oui. Même quand on écrit.
Et oui, on ne peut jamais tout voir, et donc le fait de se focaliser soi-même sur une solution qui, après tout, est assez sophistiquée et plaisante, puisqu'elle a convaincu des centaines de millions de lecteurs, eh bien, le fait de se focaliser sur cette solution empêche de voir d'autres solutions qui sont peut-être plus rationnelles.
Donc les livres ont un inconscient, un peu, comme vos...
Ça, c'est Stéphane Malandrin qui vous pose
oui,
la question.
Oui, oui. Et l'auteur, elle-même, a un inconscient et ne voit pas tout. Ou peut-être y a-t-elle pensé et a-t-elle laissé le lecteur suivre une solution en gardant une autre secrète pour elle-même.
Comment, Pierre Bayard, vous choisissez vos proies? Alors, quel type de texte? Vous parlez de failles textuelles, par exemple. Il y a des trous dans les textes qui attirent votre attention. Alors, est-ce que ce sont ces textes-là que vous repérez? Comment vous faites? Pourquoi celui-ci, Agatha Christie? Pourquoi Hamlet? Est-ce qu'il s'agit de toucher à des totems? Comment vous procédez?
Alors d'abord, je choisis des auteurs que j'aime bien. Pour moi, les auteurs sont des compagnons ou des compagnes, c'est-à-dire des gens avec qui j'aime bien être, avec qui j'aime bien vivre et lire. Ça, c'est une condition sine qua non. J'ai pas du tout abandonné l'auteur comme une certaine tradition critique. Pour moi, ce sont des compagnons de vie. Donc c'est une première condition. Ensuite, je choisis des livres qui sont des chefs-d'œuvre pour différentes raisons. D'abord parce que c'est plus difficile de les démonter, donc c'est plus intéressant d'un point de vue ludique. Et ensuite parce que l'avantage de choisir des chefs-d'œuvre comme Dix Petits Nègres ou Hamlet, c'est qu'un grand nombre de lecteurs cultivés ont déjà une image du texte. J'aurais plus difficilement pris un livre de Simenon parce qu'il n'y a pas dans le corpus simenonien un livre que tout le monde connaît.
Sauf qu'il faut quand même, c'est une contrainte que vous imposez aussi au lecteur, c'est-à-dire qu'il doit à la fois lire votre livre, mais peut-être relire le livre qui vous a servi à faire votre livre.
Alors, il peut le faire, certains le font, mais je prends toujours la précaution de résumer très minutieusement le livre à l'avance,
au début,
pour éviter au lecteur de devoir l'acheter, puisque je ne suis pas là non plus pour faire vendre les livres d'un autre écrivain.
Et qu'est-ce que c'est qu'une faille textuelle, alors? C'est votre expression, ça.
De toute façon, il y en a en permanence et en littérature beaucoup plus qu'au cinéma. Parce que, en permanence, vous avez des ellipses, des trous dans le temps de la narration. Vous avez des descriptions de personnages ou de lieux qui sont incomplètes, contrairement à ce que on verra au cinéma. Et donc, de toute façon, par structure, vous avez des trous dans le texte dans lesquels vous allez pouvoir vous engouffrer. La lecture d'un texte littéraire, c'est une opération de complément. Et c'est ça qui est très riche, c'est que chacun va ensuite ajouter des éléments vestimentaires, descriptifs, temporels. Et donc cette faille est liée même à l'art littéraire. Et donc c'est probablement, je ne l'ai encore jamais fait, je le ferai peut-être si un jour j'étends ma trilogie à 5 volumes. J'ai encore jamais travaillé sur le cinéma, mais la question serait différente, parce que le cinéma montre de manière beaucoup plus complète un personnage, un lieu. Donc les failles sont moins évidentes et probablement le travail de déconstruction que je fais serait plus difficile.
Je voudrais qu'on vous entende lire un extrait, Pierre Bayard. J'ai choisi le passage qui suit l'avertissement « Je me présente ». Il y a un mystérieux « je » qui prend la parole.
Puisque je suis responsable de la mort des 10 personnes dont le cadavre a été retrouvé sur l'île du Nègre, j'estime disposer d'une certaine légitimité pour expliquer comment les choses se sont effectivement passées. Comme j'aurai en effet l'occasion de le montrer en détail, la solution proposée par Agatha Christie dans l'un des romans policiers les plus célèbres de l'histoire littéraire, Dix Petits Nègres, ne résiste pas à une lecture attentive. Elle est entachée d'invraisemblances si graves qu'il est difficile de comprendre comment elle a pu passer pendant si longtemps pour une version plausible de ce qui s'est produit sur l'île, ce qui en dit long quant à la capacité de l'être humain à s'illusionner. Près de 80 ans après les événements, j'estime donc que le temps est venu pour moi de prendre enfin la parole afin d'innocenter la personne qui a été injustement accusée à ma place, d'expliquer l'enchaînement des faits et de révéler au monde la vérité. Certains lecteurs trop rationnels s'étonneront peut-être qu'un personnage sorte ainsi d'une œuvre pour apporter son témoignage sur les événements dont il a été l'acteur. J'aurai l'occasion dans ce livre de revenir plus longuement sur les raisons qui m'ont conduit à m'échapper du roman d'Agatha Christie pour prendre moi-même la plume, ainsi que sur les moyens que j'ai utilisés pour parvenir à cette fin. Je me contenterai ici de dire à quel point il m'a toujours semblé étonnant et scandaleux que les personnages de fiction, alors même que chacun leur reconnaît une forme d'existence, ne soient jamais appelés à donner leurs sentiments sur les textes dont ils sont l'objet. Inversant la perspective habituelle selon laquelle ce sont les lecteurs et les critiques qui parlent des personnages, j'entends bien pour ma part dire ma vérité à propos de ce qui s'est passé sur l'île du Nègre, comme sur tous les textes qui ont propagé une histoire fausse en réduisant la part majeure que j'y ai prise.
Merci Pierre Bayard. Donc c'est un extrait, on est au début de La vérité sur Diptynag, donc on comprend bien pourquoi vous présentez dans un avertissement ce texte comme un roman policier, donc il ne faut pas lire les dernières pages.
Et surtout la dernière ligne.
Et surtout la dernière ligne, je ne vais pas le faire ici. Est-ce que c'est ça la clé de tout votre travail? C'est-à-dire qu'un roman aussi contrôlé soit-il, offre toujours une marge de manœuvre à ses lecteurs et les invite à collaborer, finalement à construire le sens. Au fond, c'est un peu aussi l'idée que Umberto Eco lançait dans Lector in Fabula.
Tous mes livres, d'une manière ou d'une autre, de façon plus ou moins ludique, plus ou moins sérieuse, suivant les livres, sont des livres sur la lecture, sur l'interprétation. Comment lisons-nous? Que lisons-nous? Pourquoi ne lisons-nous pas ceci? Et j'ajoute que ce sont des questions qui sont fondamentales dans d'autres domaines. Tout ce que j'écris ici, c'est une manière de réfléchir sur le complotisme. Car vous avez ici, comme dans les autres, un narrateur qui est complotiste. Moi, je ne le suis pas du tout. Et donc, j'essaye de montrer de l'intérieur comment ça fonctionne. Comment vous pouvez prendre un texte sans le changer du tout. Je ne change pas une virgule du texte d'Agatha Christie et le lire complètement différemment, pourvu que vous utilisiez une forme d'esprit paranoïaque qui est au cœur du complotisme.
Mais au fond, est-ce que, puisque vous parlez de complotisme, d'ailleurs, j'aimerais, sans dévoiler le livre que vous expliquiez, pourquoi ce narrateur est complotiste, mais au fond, est-ce que vous ne propagez pas, finalement, à moins que ce soit vous la vérité, il y a le mot vérité, mais une fake news sur Agatha Christie, au fond, voilà, le coupable n'est pas...
C'est un livre sur les fake news, sauf qu'il est très clair dans le contrat de lecture qu'ici on est dans un espace ludique de la littérature, dans lequel ce qui serait monstrueux dans le trucage historique est ici accepté de toutes parts. Mais encore une fois, ce sont des livres pour moi où il n'y a pas qu'une dimension ludique, il y a aussi une réflexion indirecte sur ce qui se passe ailleurs, sur le monde contemporain, et la littérature le permet.
Pourquoi il est complotiste, votre personnage? Pourquoi vous avez utilisé ce votre narrateur, d'ailleurs, qui se trouve être un personnage, d'ailleurs, d'Agatha Christie?
Alors, d'autres narrateurs l'étaient plus clairement. Hein, par exemple, le narrateur du Titanic fera naufrage, qui véritablement réinterprète les textes comme s'il y avait des messages secrets venus de l'avenir. Mais ici, le type de fonctionnement qu'il a, qui consiste à construire une forme de logique assez rationnelle, mais délirante, est au cœur du mécanisme complotiste, qui est très difficile à démonter. Parce que dans la paranoïa, contrairement à d'autres affections comme la schizophrénie, tout est logique. Quelqu'un disait très justement de la paranoïa, dans la paranoïa, tout est juste sauf une chose.
Oui, exactement.
Et là, je dirais, dans ce livre, tout est juste, sauf que c'est pas ce qu'a dit Agatha Christie.
Oui, c'est ça.
Mais à part ça, tout est juste.
Donc, en fait, l'auteur de La vérité sur Diptynag, d'ailleurs, qui est l'auteur, enfin, le personnage qui va nous démontrer qu'il est lui véritablement le coupable, et pas celui qui avait prévu Agatha Christie, finalement, a peut-être tort.
Oui, on peut tout à fait... si on sort d'une forme de délire logique que j'ai construit, et j'espère que ça fonctionne, puisque j'essaie de montrer de l'intérieur comment ça fonctionne, on peut se dire que, finalement, il est fou à lire.
Et Eco, c'est un parrain, un peu un père... Umberto Eco, un père...
Plus que ça, puisqu'il
lui avait dédié un livre.
Oui, il a défendu... comment parler des livres qu'on n'a pas lu? Il a défendu le premier livre de la critique policière. J'ai eu la très grande chance d'avoir un débat avec lui. C'est quelqu'un pour lequel j'avais une immense admiration. Et en particulier parce qu'il a fait quelque chose que je trouve extraordinaire et que j'essaye de faire. Le nom de la rose n'est pas seulement un polar, c'est un ouvrage de réflexion théologique. Et ça qui est génial chez lui, d'arriver à faire en même temps un ouvrage sur les hérésies, etc., et un extraordinaire polar.
Oui, d'ailleurs c'est un jeu aussi pour lui, parce qu'on le connaissait plutôt pour ses textes théoriques. Voilà.
Et cette dimension de jeu sérieux, c'est évidemment ce qui m'intéresse.
Il y a une idée que je trouve absolument stimulante, elle n'est pas développée, peut-être que vous la développerez un jour, en tout cas elle n'est pas développée dans La vérité sur Des petits nègres, c'est l'idée du personnage qui se régénère grâce à ses lecteurs, en fait, par les lectures successives. Je vous cite Pierre Bayard. « Sans doute, cette existence n'est-elle pas d'une plénitude identique pour chacun d'entre nous ?» Donc c'est votre personnage qui parle de sa condition de personnage et de personnage existant. « Certains personnages, pensons à Oedipe ou Hamlet, s'imposent avec force dès leur création et ne semblent perdre, comme régénérés par les lectures successives, aucune vitalité au fil des siècles, quand d'autres ne possèdent qu'une énergie faible et s'anémie à mesure que passent les générations. » Et ça, cette idée de personnage dont les radiations perdurent, mais qui se régénèrent, non seulement elles perdurent parce que l'auteur a été efficace, magnifique, mais que les lecteurs, dans lesquels les lecteurs réinsufflent de la vie, je trouve ça absolument stimulant.
Et ben, je suis inspiré de ce qu'on dit souvent sur les personnes disparues. Moi, je crois aux fantômes. Je crois à une présence encore d'un certain nombre d'anciens parmi nous, et ils survivent parce que nous continuons à les aimer, à croire en eux, etc. Je pense qu'il en va de même pour les personnages littéraires. Ils puisent leur énergie dans le fait qu'il y a encore des lecteurs qui considèrent qu'ils ont quelque chose à nous dire, et c'est pour ça que certains d'entre eux, même très anciens, comme Oedipe ou d'autres, continuent à survivre parmi nous.
Mais qu'est-ce qu'un lecteur met justement dans ces personnages qui permettent de les régénérer, comme vous le dites ?
Son amour pour eux, sa haine, le fait qu'il considère qu'il continue à leur apporter quelque chose. Les personnages de l'Iliade et l'Odyssée sont encore vivants pour certains d'entre nous, et même parfois envahissants. Conan Doyle n'arrivait pas à se débarrasser de Sherlock Holmes, s'il en était malade. Sherlock Holmes le persécutait, il a essayé plusieurs fois de le tuer en vain. Cervantes, Flaubert nous ont très bien expliqué cela.
Arsène Lupin pour Maurice Leblanc aussi, voilà, qui venait le hanter.
Les écrivains qui racontent cela le font de façon très sérieuse, parce que les personnages qu'ils ont inventés ou dans lesquels ils croient, pensez à Bianchon pour Balzac, ont encore une fois une forme d'autonomie, de vie, et moi je vais même plus loin en suggérant qu'ils ont une forme de conscience.
Et pour terminer, Pierre Bayard, où est l'autorité de l'auteur ? Parce que pour moi, auteur venait de auctoritas, c'est lui qui a l'autorité sur son texte, autorité que ses personnages lui contestent dans vos livres. Page 92, vous mentionnez en note de bas de page un autre texte, un article en fait d'un certain Bachellerie qui s'est penché aussi sur ce cas des dix petits nègres. Cet article s'intitule « Vaincre l'auteur ». Les assassins de l'île du Nègre. Et vous citez cet article que vous qualifiez de perspicace. Il s'agit pour vous, il y a un petit club comme ça d'auteurs qui veulent vaincre les autres auteurs, rentrer dans leurs œuvres.
Mais il y a même une association internationale qui s'est créée, qui s'appelle Intercripol, sur les bases de la critique policière, avec une douzaine de bureaux à l'étranger, une centaine de membres, qui reprend les cold cases. En ce qui concerne le rapport à l'auteur, c'est vrai que d'une certaine manière, nous donnons l'impression de nous débarrasser d'eux, ce qui était le cas dans les années 60. Mais c'est aussi pour dire notre admiration, et puis aussi pour montrer comment leurs textes sont encore plus riches qu'ils le pensaient. Et malgré toutes les approches ludiques que j'ai des auteurs, encore une fois, celles avec qui je travaille sont des gens pour qui j'ai une immense admiration. C'est vrai que je conteste leurs solutions de manière plaisante.
Leur autorité.
Mais c'est
leur
surtout autorité. Pour montrer que leurs textes peuvent aussi se lire autrement. Et pas seulement d'un point de vue policier, parce que ils continuent à nous dire quelque chose sur le contemporain. Donc c'est une façon de leur rendre hommage derrière une apparente désinvolture.
Et vous diriez que votre travail s'apparente à l'Oulipo, à la tradition, à cet autre club d'ailleurs réuni autour de Queneau, c'est-à-dire se forger un certain nombre de contraintes, si ce n'est que vous choisissez votre labyrinthe, il est déjà en l'occurrence, vous plongez dans un livre, mais se donner des contraintes pour essayer justement de, oui, de démêler une affaire.
Il y a toute une série de contraintes que je me donne, hein, parce que je suis un grand obsessionnel, le nombre de pages, le nombre de paragraphes, etc. Je me donne toute une série de contraintes. Donc évidemment qu'il y a l'Oulipo, il y a Borges, hein, je crois que c'est pour moi la référence majeure. Et si je devais en ajouter une troisième, c'est Laurent Stern, qui est pour moi le maître, qui reste pour moi le maître de l'écriture romanesque.
Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà rêvé de, vous l'avez peut-être fait hein, d'ailleurs, de dévorer un livre, mais pas métaphoriquement, c'est-à-dire d'en manger les pages et les... Vous l'avez fait déjà, peut-être, Pierre Bayard ?
En tout cas, d'après l'enseignement que j'ai de Stéphane, je crois que si un jour j'ai une petite faim, effectivement, c'est ce que je ferai. Je passerai, comme il le fait très bien, de la métaphore à la réalité de la consommation livresque.
Vous l'avez fait, vous d'ailleurs, Stéphane Malandrin, pour expérimenter, puisque c'est l'argument de votre livre dont on va parler maintenant en détail, de dévorer, manger du livre, quoi, manger du vélin, manger du papier, manger de l'encre, pour expérimenter ce que vit votre personnage, vous l'avez fait.
Alors, je n'ai jamais eu entre les mains un livre en vélin, écrit vraiment sur de la peau d'agneau, de bête, de veau mort-né, et je pense que je pourrais essayer de goûter. Ouais. Ça m'intéresserait, c'est sûr.
D'accord, on va vous trouver ça. En attendant, on va écouter votre choix musical. Choix très bref, vous allez nous expliquer pourquoi, d'ailleurs, Stéphane Malandrin. Et puis après, on parle de votre mangeur de livres. Le choix que vous avez fait, c'est Es muss sein de Beethoven, interprété par les solistes de Berlin, dirigé par Dietrich Knothe. Les solistes, je donne leur nom, Joachim Vogt, Günther Beyer, Siegfried Mausmann et Werner Eberhardt. On écoute.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Voilà, a cappella du Beethoven, Es muss sein, interprété par les solistes de Berlin sous la direction de Dietrich Knothe. Choix très bref, mais c'était votre choix, Stéphane Malandrin.
Alors Es muss sein, je parle pas allemand, mais ça veut dire est-ce qu'il le faut ? Oui, il le faut. Et alors cette petite
cela doit être.
Cela doit être. Léo Ferré en a fait aussi une chanson. Ouais. Kundera, on parle dans l'insoutenable légèreté de l'être, au moment où le personnage de Thomas demande s'il doit rentrer à Prague, quitter Zurich et sa situation confortable. Et le directeur de la clinique lui dit, il connaît Beethoven et lui dit, le faut-il ? Et l'autre répond, oui, il le faut, en citant Beethoven. Et Kundera oppose la gravité de la situation, le choix métaphysique dans la vie de son personnage, à la légèreté de l'être et au hasard qui fait qu'on a des destinées. Et donc il accuse un peu Beethoven d'être quelqu'un de grave et de se poser toujours des questions graves, alors qu'en fait, il y a une grande légèreté dans Beethoven, et j'avais envie de choisir ce morceau parce que c'est une blague, en fait. Es muss sein, c'est quelqu'un qui vient réclamer 50 florins à Beethoven en lui disant, voilà, je voudrais que éditer une de vos partitions, et Beethoven lui dit, vous n'êtes pas venu écouter mon concert, et c'était l'entrée, il fallait payer l'entrée. Donc, payez l'entrée, et peut-être vous aurez ma partition, et le mec lui dit, le faut-il? Il dit, oui, il le faut. Et il en fait ce délicieux quatuor. Et après, dans le dernier quatuor que Beethoven a écrit, il a rédigé dans la marge ses annotations à la main, le faut-il ou il le faut, et c'est redevenu une sorte de mythe comme ça, cette injonction, en fait. Et cette injonction, je la trouve très drôle.
Bah, d'autant qu'elle correspond tout à fait à votre livre. Hein. Cela doit être manger des livres. Le faut manger des livres. J'en dis un mot quand même, Stéphane Malandrin. Donc, ça s'appelle Le Mangeur de Livres. C'est au seuil. C'est votre premier roman. Et c'est un texte, j'insiste, extrêmement réjouissant, extrêmement original, très goûteux. On en parlait avec Pierre Bayard tout à l'heure. C'est vrai que les mots qui disent la nourriture, et on va vous entendre lire et les auditrices et les auditeurs s'en rendront compte. Ce livre nous transporte à Lisbonne, on est au 15e siècle, juste avant la diffusion de l'imprimerie. D'ailleurs, les livres n'auront plus le même goût, vous le dites dans votre livre. Et on est sur les traces de Garnement, Adar et Faustino, qui sont nés le même jour, qui ont été élevés ensemble, qui se sentent frères. Ils sont d'abord dévoreurs de plats qu'ils subtilisent dans les festins du coin. Ils font les 400 coups et un jour de grosses bêtises, ils se font rapter par un moine colossal qui les enferme dans une crypte et qui leur propose de leur apprendre à lire le livre précieux qu'ils gardent avec lui. Alors pourquoi eux on le saura avant. En tout cas, ils vont pas le lire, le livre, puisque Hadar le mange, et dévorant ce livre, il est contraint, es muss sein, hein, il doit en dévorer d'autres codex précieux dont il aime mâcher les pages, l'encre, le vélin dont il raffole. Il adore aussi leur odeur, il sent le parfum des outils qui les ont travaillés. Et donc, ils vont s'introduire dans les églises et les couvents pour qu'Hadar puisse se sustenter. Tandis que son frère, hein, Faustino, lui, dérobe les objets précieux. La population est confondue d'étonnement. Que Dieu sauve nos bibliothèques, lance en latin les femmes et les hommes d'église. Évidemment, ils enquêtent. Il faut retrouver les coupables. Il y a un côté très, très picaresque dans ce livre. Et aussi ce côté, à la fois l'obsession du haut avec ses textes, ses codex, et l'obsession du bas, du corps, de ce qui se passe quand on ingère. Pierre Bayard, vous disiez, si j'ai très faim, je le ferai, mais le texte montre que on digère assez mal, hein, finalement, ces livres. Rabelais, maître Alco Fribas Nazier, c'est vraiment le saint patron de ce livre, Stéphane Malandrin.
Il est devenu une lumière, oui, dans mon errance, puisque je me suis perdu vraiment longtemps en écrivant ce livre. J'avais envie de faire un livre qui débordait d'énergie, un livre vital, un livre de joie. Alors je rejoins complètement Pierre Bayard sur Laurent Stern, qui est à l'origine, en fait, de mon désir d'écrire la vie de Tristram Shandy, enfin, qui est un truc qui pète de joie et de...
C'est marrant que vous utilisez ce mot-là, parce que c'est un mot qui est aussi dans les
mangeurs. Oui, mais il y a quelque chose de gastrique, un peu de... Voilà, cette espèce de digestion, enfin, le livre de, si les lecteurs qui ne l'ont pas lu, la vie de Tristram Shandy, enfin, le titre exact, c'est pas ça, d'ailleurs.
C'est très, très long, c'est ça.
Vie et opinion de Tristram Shandy.
Mais il faut demander un libraire à Tristram Shandy, et puis ça, il comprendra.
Achetez-le, lisez-le, c'est un livre de digression, le narrateur va vous raconter une histoire et il ne la raconte jamais parce qu'il a toujours autre chose à vous raconter, etc. Kundera parle de Tristram Shandy, donc j'ai lu un livre. Tristram Shandy s'est inspiré de Rabelais, donc je suis revenu à Rabelais, et Rabelais est devenu, dans la fabrication de mon propre livre, la lumière qui est la même que celle de Laurent Stern, je pense.
Je cite un passage, hein, quand je parlais de prose rabelaisienne, et puis juste après je vous demanderai, si vous en êtes d'accord, de lire un extrait. Moi je vais me charger de la nourriture, évidente, et puis vous, Stéphane Malandrin, vous lirez la page où on mange les livres et le vélin et ce que ça fait, hein. Je cite juste moi trois lignes, et voici les petits pâtés peints par un eau, le boudin, les saucisses, les pipes farces, et les pâtés de poissons en croûte, et voici le civet de lièvre, le brouet d'anguille au poireau, le cretonné de fèves au gras de lard, les rougets salés, et la grosse pièce de bœuf, et voici les chapons gras et les lapins rôtis. Je pensais d'ailleurs, en lisant à un de vos livres, Pierre Bayard, comment aller dans les pays qu'on n'a pas visités, où vous citiez Sandra Lazareff, lui reprochait de ne pas aller être dans les pays dont il parlait. Il disait qu'importe, hein, on connaît le mot, qu'importe, puisque j'ai fait prendre
absolument
le train à tous mes
lecteurs. Comment parler des lieux, on n'a pas été, oui.
Voilà. En fait, c'est un peu pareil, là. On lit des mots sur la nourriture et on a faim, et même on n'a plus faim, parce qu'on a l'impression d'avoir déjà dîné. Hein,
mais ça. Oui, on ne sait plus ce que ces mots veulent dire, alors qu'ils ont existé, ils ont désigné des vrais plats, mais juste les lire, on a déjà mangé la moitié du plat.
Voilà, on salive. On vous écoute, Stéphane Malandrin, le mangeur de livres, chapitre 16.
Lorsque vous avez dans la bouche un codex de haute graisse, que vous lui brisez l'os et le sucez jusqu'à la substantifique moelle, alors la matière libère cet incomparable nectar qu'elle garde dans le pli de ses formes et qui exprime la mémoire des transformations qu'on lui a fait subir. Chaque codex a son odeur, en fonction des animaux sur lesquels le scribe a fait son travail. Et c'est parfois tout un troupeau qui continue de vivre dans un livre, comme dans les Bibles du IXe siècle, que l'on fabriquait en cousant la peau de 210 moutons. Chaque livre a son parfum, d'après la solution de chaux employée pour nettoyer sa peau, de son pliage spécifique et de la nature des pigments qu'on utilise pour les lettrines et les enluminures. J'aime les Bibles dont les feuilles sont minces, pliées dans le sens de l'échine, celles dont l'encre est appliquée directement sur leur matière même et non sur le blanc d'œuf comme cela se fait parfois au risque de voir l'écriture se détacher. J'aime les pages aux lettrines minérales et aux formes figuratives qui se prolongent dans les marges fourmillantes d'animaux et de monstres aux visages presque humains. J'aime les bouts de lignes aux formes géométriques, les spirales, les motifs végétaux. Je les lèche, commençant par la corde de couture de la reliure, et j'aime sentir l'animal. J'aime deviner l'empreinte de ses veines, les taches vitreuses, les nodosités, les traces de l'implantation de ses poils qui restent sur chaque feuille malgré le travail d'effleurage et de ponçage de l'artisan,
jusqu'au goût des outils dont je sens le passage du bout de ma langue par les traces de stries qu'il laisse au moment du polissage.
Merci beaucoup. Et c'est très poli, cette écriture, Stéphane Malandrin, donc le mangeur de livres. Alors, une question quand même, moi, qui m'a troublé au départ. Moi, j'ai ouvert ce livre à cause du titre, hein, le mangeur de livres. J'ai quelqu'un qui lit les livres. Qu'est-ce qui va lui advenir? C'est formidable d'ingérer tous ces mots, etc. Et finalement, on parlait de Rabelais tout à l'heure, mais ce que vous lui faites faire, même si c'est de façon ingénue, c'est quand même une forme d'auto-dafé par ingestion. Au fond, il célèbre pas du tout le livre, il mange les objets, mais ce qu'il y a à l'intérieur, il s'en fiche totalement.
Oui, tout à fait, surtout que je trouvais drôle que ce livre que le curé leur apporte, ce livre mystérieux, ce livre magique, ensorcelé, c'est un livre qui remonte à l'an 1000 et que personne n'a jamais lu. Il a été lu à l'époque, c'est ce qui est raconté vers la fin du livre. Je spoil pas grand-chose.
Voilà, l'opuscule polyglotte.
L'opuscule polyglotte. Ce livre aurait été écrit en trois langues différentes pour mieux le masquer. Et donc, il a été... C'est ce livre que personne n'a lu depuis 500 ans.
C'est un livre qui n'est pas lu, en fait.
Oui, voilà. Un livre qui n'est pas lu et que le curé a peur de lire et qui veut faire lire à des enfants. Et c'est ce livre qu'il va manger. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas une référence à Echo, ce livre que personne n'a lu et qui est empoisonné?
Mais évidemment, j'adore Echo, j'aurais tellement aimé rencontrer.
Vous ne le citez pas à la fin, pourtant, dans vos sources. Ah, voilà, il y a plein de choses. Il y a Bakhtine, évidemment, le grand spécialiste de Rabelais.
Non, Echo, bien sûr... Et c'est le paradoxe.
Borges est là, évidemment. Parce qu'il y a tout un menu, je le redis pour les auditrices et les auditeurs, mais à la fin du livre, on a finalement un menu qui nous est proposé avec le dessert. Alors le dessert, c'est l'automne du Moyen-Âge de Johann Huizinga, un classique de 1919, réédité chez Payot. Corti aussi, des mets et des mots, banquets et propos de table de la Renaissance. Il y a toute une bibliographie, Stéphane Malandrin. Et Borges, évidemment, fiction, vous en parliez tout à l'heure. Vous êtes beaucoup nourri.
J'avais envie de partager mon plaisir avec le lecteur, en fait, et de lui dire, de l'aiguiller vers d'autres lectures où il pourrait pratiquer encore ce vocabulaire si délicieux que je me suis amusé à retrouver, et lui dire où ça se trouve. S'il veut lire des recettes du Moyen-Âge, je pense que ça devrait faire ça de temps en temps.
Sauf que le vôtre, il détruit les livres, quoi, finalement. Oui, il n'en tire aucun profit. Pourquoi vous avez décidé, d'ailleurs, peut-être que c'est juste les personnages qui vous ont parlé, comme chez Pierre Bayard, mais de faire en sorte qu'il n'en tire aucun profit. Il devient une sorte de vache très, très grosse, une sorte de minotaure. D'ailleurs, on pense aux métamorphoses d'Ovide aussi. Il rumine, il bave, il salive, il s'empoisonne. Il est dans une boulimie, vous en parlez. Il ne tire aucun profit. De ses lectures par ingestion?
Il ne tire aucun profit de ses lectures par ingestion, mais le livre, j'espère, est le fruit de toutes ses lectures. Le livre dit bien que c'est un livre sur l'amour du livre. Alors, il y a quelque chose que peut-être je raconte en filigrane, qui est notre transformation à chacun entre notre enfance et notre âge adulte, cette transformation, cette perte de l'enfance, en fait, qui passe par la connaissance, et par l'apprentissage du vocabulaire, de la langue, de l'écriture, des livres, en fait, les années de formation littéraire, intellectuelle, c'est des années où on quitte le monde du jeu, le monde de l'enfance. Cette perte-là, c'est celle de mon personnage. Et le livre lui fait violence, comme il nous a fait violence. On adore les livres, on est tous là autour de cette table. Les auditeurs qui écoutent cette émission adorent la littérature, sinon on serait pas là. On adore tous les livres, on vénère le livre. Mais le livre nous a fait violence, quelque part. On a oublié que...
C'est même mieux, non, les livres qui nous font violence, Pierre Bayard?
Oui, certains livres peuvent faire violence. J'étais frappé aussi, vous parliez là de l'évolution individuelle, mais ce que montre aussi votre roman, c'est l'évolution de la société avec cette révolution que nous, on est en train de vivre avec Internet. C'est la révolution de l'arrivée, la fin du codex, l'arrivée des livres.
L'arrivée du livre imprimé, oui.
Voilà, c'est-à-dire, c'est cette période absolument passionnante qui est celle du passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Et on est en train de revivre ça, nous. Et d'ailleurs, la bibliographie, votre bibliographie en porte les traces, parce qu'un certain nombre de textes majeurs que vous indiquez vous montrez qu'il suffit aujourd'hui d'aller les chercher sur Internet.
Et c'est la magie d'aujourd'hui. Enfin, on peut aller dans la bibliothèque en restant chez soi.
Et je ne résiste pas, pour conclure cette émission, à vous citer Stéphane Malandrin, parce que c'est un autre point commun que vous avez avec Pierre Bayard. C'est dit en une phrase, les livres sont vivants, ils se combinent à l'intérieur de votre corps et laissent exploser leurs mélodies en bulles invisibles qui chantent en vos papilles. J'en ai mangé des courts, des larges, des maigres, des gros. J'en ai même mangé un de 20 pieds de long qu'on avait fait chez les anciens en utilisant des peaux qu'on taillait en bandes puis qu'on cousait les unes aux autres. Avant de faire des rouleaux, j'en ai mangé des plus hauts que larges. Et ça continue, ça continue, ça continue. Ça donne envie de lire comme vos livres à tous les deux. Stéphane Malandrin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne chance merci. À ce mangeur de livres. Et Pierre Bayard, merci aussi à vous. Le prochain, est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût, puisqu'il a été question de nourriture, du prochain livre de Pierre Bayard?
Ben écoutez, j'ai évoqué le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, il devrait en être question dans le prochain.
Formidable, merci, on vous réinvitera alors. Merci à tous les deux, à bientôt. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation et à la technique, Alain Joubert. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster à l'infini, réécouter sur franceculture.fr cette heure avec Pierre Bayard et Stéphane Malandrin. Et quand vous ne les écouterez pas, eh bien vous occuperez votre temps à lire, car cela vous nourrit. Merci encore.